EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Pour moi, ce qui a été compliqué, c'est vraiment le lâcher prise. Parce que quand on aime savoir où on va, savoir comment les choses vont se passer, et en fait ce besoin un petit peu de
contrôler,
on peut tout savoir, voilà, de contrôler, de savoir, ok, je veux bien m'engager dans quelque chose, mais bon, j'ai envie de savoir quand même, est-ce que ça va marcher
Bonjour tout le monde, bienvenue dans la table avec Annabelle. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Préparez-vous, prenez un café parce que nous avons une invitée aujourd'hui qui va nous raconter son parcours, son témoignage très très inspirant. Vous savez, on a toutes un appel, on a toutes des projets que Dieu nous a confiés. Et puis bah souvent on résiste, on reporte, on a des excuses, des bonnes, des moins bonnes, etc. etc. Et puis bah je pense que tout, on est un petit peu passé par là. Mais aujourd'hui, on a une femme qui a dit oui à Dieu, qui a osé dire oui à Dieu, et pas pour un petit projet, pour quelque chose qu'elle ait engagé toute sa vie de femme, sa vie d'épouse, sa vie de famille avec ses enfants. Alors, je trouve que c'est vraiment inspirant de pouvoir entendre ce genre de témoignage. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec Séverine. Séverine Lagage, bienvenue à toi dans la table avec Annabelle. Et je suis aussi avec Aurélie, avec Laure. Salut les filles.
Salut Séverine.
Coucou Séverine.
Et alors Séverine Lagache, peut-être que ton nom évoque quelque chose parce que à EMCI, on a déjà reçu à distance ton mari Romain qui est venu nous partager son histoire aussi, son témoignage, votre projet, son projet qui est aussi ton projet de cette association des 2400 sourires qui est à Madagascar où vous aidez des enfants qui sont en situation de précarité, des enfants qui vivent beaucoup de pauvreté, beaucoup de choses difficiles. Et Romain a eu l'occasion de partager dans Bonjour chez vous notamment. Puis à chaque fois, on a été tous très touchés dans l'équipe de pouvoir entendre son cœur, de pouvoir entendre la vision que vous portez tous les deux. Et moi, je me suis dit, mais en fait, moi, je veux savoir c'est qui Séverine, parce que et quand il le raconte, il dit, je suis partie avec ma femme, avec mes enfants, et je me dis, mais qui est cette femme? Qui est cette femme qui a dit oui à Dieu? Qui est cette femme qui a dit à ce projet fou, qui a dit oui à ce projet fou? Parce que, écoute, moi, quand j'écoutais le témoignage, votre témoignage, je me disais, mais est-ce que j'aurais le courage de dire oui? Est-ce que c'est quelque chose que j'aurais eu le courage de faire? Et c'est pour ça que ton histoire m'inspire, tu m'inspires Séverine, et c'est pour ça que aujourd'hui dans la table avec les filles, on voulait t'entendre aussi, on voulait savoir comment toi tu avais vécu tout ça. Donc merci pour le temps que tu nous accordes aujourd'hui. Donc toi là, tu es à Madagascar en ce moment.
Oui, tout à fait, je suis à Madagascar. Et chez nous, il fait nuit.
Merci.
Il y a le petit décalage. Et oui, je suis à Madagascar, du coup, depuis bientôt 3 ans. Ça fait bientôt 3 ans qu'on a démarré ce projet avec Romain. Mm-hmm. Et donc, oui.
Pardon. Oui. Écoute, on va peut-être te revenir un petit peu en arrière pour que tu nous racontes comment ça s'est passé pour toi, comment cette vision est née dans votre cœur. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que vous êtes allé là-bas, à Madagascar, et en famille, et que là, il s'est passé un truc dans vos cœurs. Et donc voilà. En tout cas, je te laisse nous raconter ce qui s'est passé en 2019 pour toi.
Oui. Alors oui, du coup, on a eu l'occasion de venir à Madagascar en 2019, donc avec nos deux premiers enfants qui avaient du coup à l'époque 5 et 3 ans. Et on est venu, c'était au départ pour leur faire découvrir Madagascar, puisque leurs grands-parents, les parents de Romain, sont missionnaires à Madagascar depuis une vingtaine d'années. Donc c'était l'occasion pour nous simplement d'aller voir où vivent papy et mamie. Et ça s'est simplement fait comme ça. On n'avait pas du tout l'intention de déménager plus tard à Madagascar. Donc, on est venu quelques semaines. Et un soir, on a voulu se faire une sortie tous les deux, donc aller manger quelque part en ville. Et Romain me dit, viens, je t'emmène, on va un peu dans les rues de Tana, voir un petit peu la vie de la nuit, un petit peu, voir ce qui se passe un peu dans les rues. Et là, en fait, on a vu énormément d'enfants qui dormaient sur les trottoirs, le long des bâtiments, le long des magasins. Et ça nous a saisi. Enfin, ça m'a vraiment saisi, ça m'a vraiment bouleversée. Et je crois que là, ça a été le démarrage de toute notre aventure. Et à un moment donné, justement, parmi ces enfants, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, on s'est approché d'un garçon qui avait, peut-être 8 ans, 9 ans, je ne sais pas trop exactement, et il portait sur lui son petit frère. Et on lui a posé quelques questions. Donc, il nous a dit que ses parents étaient morts. Et il nous a dit cette phrase qui m'a vraiment marquée. Il nous a dit « Nous sommes des misérables ». Et ça, c'est vraiment une phrase qui m'a retournée. Et sur le coup, je me disais, il faut qu'on achète à manger. On peut leur offrir du riz, quelque chose. On achète, on donne. Mais il y avait tellement d'enfants que, je pense que ça aurait été compliqué de gérer ça. Et Romain m'a dit, mais si on veut vraiment faire quelque chose, il faut penser à quelque chose de durable. Et c'est de là que tout a démarré.
Mmh. Wow. Mais parce que tu vois, moi je me dis, quand tu vas dans des endroits comme ça, quelquefois, où tu vois des scènes qui sont qui attirent la compassion, tu te dis c'est pas possible et tout ça. Mais d'un autre côté, souvent aussi, ce qu'on voit, c'est que on revient dans notre quotidien, puis petit à petit, ça, on oublie, tu vois, on oublie cette misère, on oublie ce qui a touché notre cœur. Qu'est-ce qui a fait que pour vous, ça a été différent une fois rentré et que vous n'êtes pas reparti dans votre quotidien, puis dire Dieu va appeler quelqu'un.
Oui, exactement. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait s'éteindre, mais déjà, pendant le séjour encore à Madagascar, on a eu toute une série de rencontres incroyables et je pense que c'était vraiment un rendez-vous que Dieu nous avait donné, où on a rencontré des missionnaires, des gens qui ont fait des œuvres aussi, pas forcément pour les enfants des rues, mais pour d'autres choses. Et suite à la rencontre avec ces enfants, on a été vraiment travailler pendant la suite du séjour. Cette pensée-là ne nous quittait pas, de se dire, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour ces enfants? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et donc, j'avais plein de questions. Et on a rencontré sur place déjà un missionnaire qui, sans savoir une seule de mes questions, y a répondu. Et il expliquait que lui, il n'était pas appelé à faire ça. Et Dieu l'a équipé à faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc, on est reparti en France après avoir eu ça dans le cœur. Et effectivement, moi, je le décris un peu comme ça, comme si, en fait, on a eu une étincelle. Et puis, après, cette étincelle, elle peut s'éteindre si on garde pas ça dans notre cœur. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment ressenti. C'est-à-dire qu'après, on retourne en France et effectivement, on a notre quotidien, on retrouve notre petite maison, nos marques. Alors que, par exemple, la maison, pour moi, j'étais pas plus accrochée que ça, mais c'est comme si l'étincelle est allumée et tu te dis, tu reviens dans ton cocon, ton quotidien, tu te dis, finalement, on n'est pas si mal ici. Finalement, peut-être que quelqu'un d'autre pourrait y aller, comme tu disais. Et commence à venir un peu des pensées comme ça, des idées de ce genre. Et je pense que l'étincelle qu'on a reçue était tellement forte que malgré tout, ça ne nous a pas quittés. Mais il a fallu quand même, pour ma part en tout cas, dans mon cheminement, m'y accrocher et m'accrocher à ce que Dieu avait mis dans notre cœur et puis avancer avec ça. Et pour ne pas se faire justement happer par le retour au quotidien qui aurait éteint ça.
Et comment vous l'avez communiqué aux enfants? Est-ce que c'était à Madagascar, sur place, tout de suite vous avez commencé à leur parler de votre désir ou vous avez attendu que ce soit un petit peu plus clair en vous pour leur partager les projets que vous aviez sur le cœur?
Je pense que comme ils étaient déjà avec nous, ils ont tout de suite entendu nos comment dire, nos questionnements quand on était sur place à Madagascar. Ils ont vu déjà de leurs yeux aussi la condition, la pauvreté, la situation des enfants. Et du coup, pour nous, on se disait, chouette, ça va leur dire, tiens, je suis peut-être pas si mal en France. Et donc, ils ont vu de leurs yeux aussi un petit peu la situation des enfants ici. Et puis après, en rentrant, je pense qu'on les a très vite intégrés quand même dans nos prières. Ils étaient avec nous parfois quand on avait des temps de prière, des discussions. Et c'est vrai que c'est vraiment devenu quelque chose de quotidien. Quand on racontait aux gens, qu'est-ce qu'on a fait à Madagascar pendant ces semaines, ce qui s'est passé dans notre cœur. Donc, ils ont été quand même... c'est pas quelque chose qu'on leur a annoncé comme ça du jour au lendemain, ouais. En disant, les enfants, on quitte tout, on part à Madagascar. Ça s'est vraiment fait avec eux. Et ce qui était drôle, c'est que même quand on créait le projet, même mon fils qui avait du coup, donc oui, si je dis pas de bêtises, 7 ans, 5 ans, je sais déjà plus, quand on avait un rendez-vous médical par exemple, il disait au médecin, il cherchait de l'argent quoi, il faisait la publicité du projet, puis c'est lui qui disait, peut-être que on pourrait trouver des sous pour papa, pour le projet. Enfin, c'était vraiment incroyable.
Il avait bien compris. Hein. Il avait demandé au docteur.
Voilà. Oui, c'est ça.
Et du coup, alors, à partir de là, ça a été quoi vos premières démarches pour pouvoir faire ce projet? Est-ce que vous avez dû chercher aussi une équipe? Qu'est-ce qu'il fallait faire?
Alors, du coup, on a commencé par la création d'une association, donc l'association qu'on a appelée 2400 Sourires. Et ensuite, très rapidement, les démarches, ça a été qu'est-ce qu'on fait du lieu où on habite aujourd'hui, en France, notre maison. Et en fait, on a commencé les cartons en 2021. Donc moi, j'étais enceinte de notre troisième enfant. Et on a quand même attendu l'accouchement. Et puis,
bravo.
Quand même, j'ai... Non, c'est vrai que c'est un bébé qui est né, je ne veux pas dire dans les cartons, mais en tout cas, il a été bercé au bruit du scotch qui ferme les cartons. Et donc là, c'est pareil, on a mis en place un peu les choses en se disant, il faut commencer par quelque chose, créer l'association, réfléchir sur le projet, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on pourrait faire, avoir la vision du projet justement, et puis ensuite dans le concret, la vente de la maison, parce qu'on s'est dit que on n'allait pas garder notre maison, et voilà, bébé est arrivé au mois de mars, et en juin on vendait notre maison, et ça c'est aussi miraculeux, parce que là aussi j'avais beaucoup de questions, et je me disais, mais est-ce qu'on va réussir à vendre la maison, c'est quand même, qu'est-ce qui se passe si ça marche pas, et ça a été vraiment miraculeux, parce que la vente de la maison s'est faite en une semaine. En une semaine, on a trouvé des acheteurs, et ça, c'était vraiment incroyable. Et puis, ensuite, on a organisé un conteneur qui a pu emmener une partie de nos affaires, du matériel, des dons qu'on avait reçus.
Et on est resté... Entre votre retour en 2019 en France et 2021, le départ, est-ce que toi, t'es passé par des moments de questionnement, de remise en question, sachant qu'il y a eu aussi le Covid qui est passé par là à un moment donné, il y avait la fermeture de tout, donc aussi cette incertitude, est-ce qu'on va pouvoir revoyager un jour toi, t'as vécu des moments de doute?
Oui, bien sûr. Des moments de doute, oui, ne serait-ce que par rapport justement à la vision, par rapport au fait de se dire, est-ce que je suis vraiment appelée à faire ça, est-ce que peut-être pourquoi nous? Et donc moi, c'était vraiment mon combat plutôt par rapport à ça. Ensuite, c'est vrai qu'en fait, on était limité par rapport au Covid. On n'avait pas de date en se disant quand est-ce qu'on pourra partir. Mais on était dans l'attente. On était dans l'attente. Donc, on a quand même activé des choses, mis en place des choses. Mais oui, je suis passée par des doutes. Et même dans le fait d'être appelée à partir en mission, ce qui est drôle, c'est que j'aimais entendre parler de la mission, j'aimais entendre les témoignages des missionnaires, les aventures, etc. Mais jamais je ne m'étais dit Moi-même, un jour, je partirai comme ça. Jamais. Et c'était même drôle parce que parfois, j'entendais des personnes qui disaient clairement, moi, mon appel, c'est la mission. Je vais partir dans tel pays, j'ai ça à cœur. Et quand on parlait de cette personne, tout le monde était d'accord pour dire, ah bah oui, toi, c'est la mission, etc. Et moi, je ne me reconnaissais pas dans cette... dans cette personnalité-là. Et pourtant, je suis là aujourd'hui. Donc, je me dis...
Ah oui.
Dieu nous équipe. Merci.
Non, j'allais dire, puis vos familles, justement, autour, qu'est-ce qu'ils pensaient? Est-ce qu'eux, ils vous ont vu dans le projet? Est-ce que vous vous êtes sentis encouragés? Est-ce que ben, dans tout ce processus-là, vous les avez sentis derrière vous?
Oui, oui, oui. Et puis, ils connaissent Romain, ils connaissent son arrière-plan familial où il a vécu à l'étranger. Moi, qui étais partie trois fois à Madagascar, j'avais fait une fois le Bénin. Et donc, ce n'était pas quelque chose de très surprenant non plus. Ils étaient derrière nous et ils étaient tristes de nous voir partir forcément, mais contents qu'on puisse répondre à l'appel et à ce qu'on avait reçu dans le cœur.
Et comment vous avez fait justement par rapport aux doutes et les questions qui étaient là chaque fois? Comment vous avez fait? Parce que je pense à des personnes peut-être qui sont appelées à faire des choses, mais le poids des questions les fait reculer de plus en plus. Comment vous avez fait pour surpasser tout ça et pour pouvoir répondre vraiment à cet appel?
Eh bien, c'est vrai que c'est une très bonne question. Je dirais que pour moi, ce qui a été compliqué, c'est vraiment le lâcher prise. Parce que quand on aime savoir où on va, savoir comment les choses vont se passer, et en fait, ce besoin un petit peu de...
contrôler.
On peut tout savoir. De contrôler, de savoir, OK, je veux bien m'engager dans quelque chose, mais bon, j'ai envie de savoir quand même, est-ce que ça va marcher quel est le retour, etc. Donc, ça a été... J'ai passé beaucoup de temps à prier, à pleurer aussi. Pleurer parce que de devoir abandonner, de me dire, mais est-ce que je suis prête à lâcher ça? Est-ce que je suis prête à lâcher mes sécurités? Et oui, ça a été vraiment un cheminement d'étape en étape, de dire, oui, Seigneur, oui, je veux le faire. J'accepte de ne pas savoir, j'accepte de ne pas avoir la certitude de... mais je sais que tu es avec nous et c'est toi qui as mis ça dans notre cœur. Et le fait de se rappeler ça, en fait, aussi, de se rappeler que c'est Dieu qui nous a donné ce rendez-vous-là et qu'il est avec nous et puis qu'on ne va pas se laisser déstabiliser par tout ça, ses pensées, ses doutes. Et ça fait partie du cheminement, mais c'est vrai que c'est un cheminement
la foi, au final.
Quotidien. La foi, oui, c'est ça. C'est la foi qui m'a aidée dans cette démarche-là.
Et en 2021, quand vous arrivez à Madagascar, donc en famille, pour vous installer avec ce projet, comment ça se passe au niveau de l'intégration pour toi, tu vois, à titre personnel, mais aussi avec les enfants, si c'est toute une nouvelle vie, juste de déménager à deux pas de à deux pâtés de maison, c'est comme toute une réadaptation. Donc là, c'est en plus avec un bébé, on le rappelle, ton dernier avait 5 mois. Donc bon, 5 mois, on a à peine remis de son accouchement. Comment est-ce que tu as vécu cette intégration?
Ben, je dirais que l'arrivée s'est bien passée. Bon, c'est vrai que c'était la période Covid, mais ici, à Madagascar, on ne le ressentait pas trop. Ce n'était pas du tout la même ambiance. C'est vrai qu'on est arrivé fin août et puis on s'est posé un petit peu. Mais très vite, je me suis renseignée pour la scolarité des enfants. Donc, il a fallu quand même les inscrire à l'école. Et puis... je dirais que l'intégration, c'est quelque chose, je pense, qui se fait vraiment sur la durée, même au bout de 3 ans. C'est pas quelque chose qui est acquis, où on se dit, ça y est, c'est bon, on est intégré. Pas du tout. C'est vrai que ça prend du temps de comprendre la culture aussi, vraiment, qui est très différente de la nôtre. Apprendre la langue, donc ça, c'est ce qu'on fait depuis aussi 3 ans. Ça prend aussi du temps. Et puis, pour les enfants, c'est vrai que quand ils sont arrivés, au début, tout est merveilleux, ils découvrent et voilà, ils sont bien. Et ensuite, c'est vrai que d'y vivre, c'est encore autre chose parce que ils se rendent compte vraiment de manière, je dirais, durable du fonctionnement différent du pays, des choses qui sont très différentes, des choses qui leur manquent. Et puis finalement, après, le manque de la famille s'installe. Et donc voilà, il y a ça à gérer sur place, c'est sûr. Mais je dirais que l'intégration s'est quand même bien passée. Mais je pense que c'est vraiment un cheminement aussi. Faire sa place auprès des gens, aller auprès des gens. Et puis, cette différence, on n'est pas malgache, mais on est là pour servir Madagascar, pour les enfants de Madagascar. Mm-hmm. Et puis, d'arriver avec des enfants, je trouve que ça a été aussi quand même quelque chose qui nous a aidés parce que les gens aiment les enfants et en plus le petit dernier ayant 5 mois, c'est vrai que là c'était chou.
Et du coup, vas-y. Du coup, là-bas, quand vous étiez sur place, que vous venez d'arriver, comment ça s'est passé en fait? Comment est-ce que vous avez commencé à mettre les choses en place par rapport à cette vision que vous aviez déjà dans le cœur? Est-ce qu'il y a eu des obstacles? Qu'est-ce qui s'est passé au juste?
Alors au démarrage, il a fallu réfléchir où est-ce qu'on pourrait mettre en place ce projet, trouver une équipe. Donc là, c'était vraiment le travail de Romain de faire du recrutement, chercher des personnes, présenter le projet. Et puis, des rencontres qui ont permis justement d'avoir le site sur lequel on a pu démarrer la construction de ce village. Et puis des obstacles, voilà, c'était vraiment dans l'attente de trouver où est-ce qu'on pourrait mettre en place ce projet. On prospecte sur un lieu, finalement on attend, peut-être que oui, peut-être que non, et puis finalement non. Et puis c'est ça qui a été un petit peu difficile au démarrage. Ensuite constituer l'équipe de personnes qui travaillent avec nous, et là aujourd'hui on a une bonne équipe à nos côtés.
Parce que, donc, je le rappelle, la vision, c'est de pouvoir construire un village pour accueillir des enfants. Mais là, la construction est en cours. Et puis, tu nous disais que, en ce moment, c'est la construction de la pouponnière qui est en cours et dont vous attendez impatiemment l'achèvement. Mais en attendant aussi que ce village soit construit, soit totalement soit fonctionnel, c'est que vous avez déjà commencé un travail sur le terrain avec les enfants. Et là, ce travail, il consiste en quoi, en fait?
Oui, alors du coup, on a démarré même 7 mois après être arrivé. Toutes les semaines, donc tous les mercredis soirs, on va sur un parking. Donc c'est toujours le même endroit. Et en fait, on propose un programme assez complet, assez large pour les enfants des rues, donc les enfants de certains quartiers. Donc maintenant, ils nous connaissent, ils viennent, ils savent qu'on vient telle heure et tel jour, donc ils nous attendent. Et on vient en proposant donc des activités sportives, des jeux, une notion sociale qui est apportée par des personnes de l'équipe aussi pour aborder aussi des choses que ces enfants n'ont pas forcément, ne serait-ce que par exemple les émotions, le respect, des notions sociales comme ça, des temps d'activité. Et puis on termine par la distribution d'un repas qui s'appelle la coupe. Donc c'est ici, c'est une farine alimentaire qui est enrichie en vitamines. Et c'est ce qu'on distribue chaque semaine aux enfants. Et on a aussi, en parallèle de ça, une autre association qui s'est jointe à nous, qui œuvre dans le médical. Et donc, ils viennent une semaine sur deux avec nous sur ce parking. Et c'est un bus médical. Et les enfants peuvent accéder à des consultations médicales gratuites. Ils y vont quasiment tous. Et du coup, c'est vraiment des temps vraiment chouettes parce qu'au départ, il a fallu faire un petit peu, créer la relation avec ses enfants. Et ça s'est fait vraiment petit à petit. Et maintenant, quand on y va, ils nous attendent, ils crient sur le parking dès qu'on arrive. Quand on a des visiteurs, ils leur sautent dans les bras. Enfin, vraiment, ils sont toujours heureux de ce moment-là. Et c'est vraiment un moment particulier pour nous aussi d'être à leur contact, d'être sur place.
Et ces enfants, quand tu dis que ce sont des enfants de la rue, est-ce que ce sont des enfants qui vivent H24 dans la rue? Quand vous arrivez, quand vous repartez, plutôt, ils retournent, ils sont livrés à eux-mêmes.
Oui, majoritairement, oui. Il y en a quelques-uns qui ont quand même leurs parents. Mais parfois, les mamans dorment aussi sur le trottoir où ils ont des maisons, ce qu'ils appellent des maisons sachets. Donc, c'est vraiment des bouts de plastique, ce qu'ils peuvent trouver, récupérer pour se faire un abri avec du carton ou autre. Certains dorment, se réfugient sous des arcades ou des bâtiments, des lieux où ils peuvent s'abriter. Et puis d'autres ont des petites maisons. Mais alors là, c'est pareil, ça reste très rudimentaire. Et les parents, quand il y a les mamans qui sont là ou papa, ils n'ont pas de revenus. Donc en fait, ils mendient quand même la journée. Mais c'est quand même majoritairement, oui, des enfants qui sont livrés à eux-mêmes tous les jours.
Et comment tu fais, toi, en tant que femme, en tant que maman, pour gérer cette misère-là? Puis tu vois, c'est toujours facile de dire à quelqu'un d'autre « Non, mais c'est super ce que vous faites, etc. » Mais souvent, quand on est dans ce genre de projet, on a aussi conscience de l'étendue, en fait, des besoins, et puis de savoir qu'on répond qu'à une seule partie des besoins, et puis qu'on vient sur le parking, mais on repart aussi du parking, et puis la vie de ses enfants continue. Donc, comment est-ce que tu fais, toi, pour gérer ça émotionnellement, et pour ne pas te décourager aussi?
Bien, bizarrement, c'est vrai que par rapport aux fois où j'étais venue en 2010, 2011 et 2019, voir ces enfants, c'était quand même quelque chose qui me bouleversait. Mm-hmm. Ça me bouleverse toujours, mais je le sens pas du tout de la même manière. Je pense que peut-être le fait d'y être avec cette perspective d'être là justement pour faire quelque chose, pour œuvrer sur quelque chose de durable, je pense que c'est ce qui m'aide en fait à garder, enfin, à prendre une certaine distance et à ne pas vivre les choses de manière trop trop forte qui ferait que parfois on s'écroule parce qu'on se dit c'est trop, même si y a parfois des situations de rue, des situations d'enfants qui sont très compliquées et qui nous touchent émotionnellement et on repart. C'est vrai que le mercredi quand on repart de ce parking, on se dit nous on repart. On va dormir dans un lit, mais eux, ils retournent sur leur carton, ils retournent sur leur bout de trottoir. Donc, c'est compliqué, mais je pense que c'est Dieu qui m'aide à ça aussi, ou à prendre en fait une certaine distance. Et parfois, je me dis, je suis devenue insensible, alors que je pense pas, mais c'est vrai que c'est comme une protection, je pense, qui fait que justement tu sais que tu es là pour quelque chose et j'œuvre déjà pour quelque chose. Donc, effectivement, il y a énormément de besoins, il y a énormément d'enfants. Je sais aussi d'avance qu'on ne pourra pas, pense qu'on ne pourra pas répondre aux besoins de tous ces enfants, mais en fait, en ayant dans l'idée que même si c'est un enfant, deux enfants, trois enfants, c'est toujours trois enfants à sauver, trois enfants pour qui la vie peut être changée. Et c'est à ça que je m'accroche, quoi, qu'on s'accroche dans ce projet.
Et dites-moi, nous, un peu comment... L'attitude des enfants quand vous arrivez, est-ce qu'ils sont différents? Est-ce que, je ne sais pas...
Au fur et à mesure du temps, maintenant
qu'ils viennent... Oui, c'est ça. Comment ils le vivent, en fait? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce que, je ne sais pas, comment ça se passe?
Oui. Les enfants ils savent qu'on vient le mercredi, ils nous attendent. Ils connaissent bien Romain, donc quand on arrive avec le bus, ils crient tous « Monsieur Romain, Monsieur Romain !» Donc c'est un peu la star, mais non, mais tout le monde est attendu et ils sont vraiment heureux. Puis pour eux, c'est vrai qu'il faut se dire que c'est quand même une bouffée d'oxygène, on leur apporte aussi l'amour qu'on peut donner, et parfois on se dit c'est pas grand chose, mais les prendre dans les bras, bien souvent c'est eux qui viennent nous prendre dans les bras avant même qu'on arrive, et ils cherchent beaucoup le contact. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose de touchant, c'est qu'ils cherchent vraiment le contact physique, ils viennent, ils vous sautent dans le dos, ils viennent vous prendre dans les bras, et ils sont vraiment, vraiment heureux de ces moments-là, quoi. Donc nous, c'est toujours une joie d'aller auprès d'eux.
Est-ce qu'il y a des enfants qui viennent depuis un moment, puis que vous connaissez, puis, mais pour qui vous avez vu aussi une évolution?
Alors oui, il y en a qui sont là depuis le démarrage du programme. Après, c'est compliqué encore. Enfin, c'est compliqué de voir une évolution dans le sens où on ne les voit qu'une fois par semaine, et du coup, ils repartent dans leur vie, dans leur voilà, dans leur quotidien. Donc, on voit, je dirais, l'évolution. Peut-être qu'on peut la voir dans le contact qu'ils ont avec nous. Et puis, voilà, on leur rappelle des notions, on leur dit oh, ça, c'est important. Voilà, mais après, à l'heure actuelle, c'est sûr que voir vraiment un changement, une évolution dans leur vie, ça reste quand même compliqué puisque ils sont toujours dans ce milieu-là.
Et est-ce que depuis que vous êtes là, il y a une histoire qui t'a particulièrement marquée ou touchée?
Ouais, il y aurait beaucoup de situations parce que c'est vrai que tous les jours, on fait face un peu à. On fait face à la détresse, on fait face à la pauvreté. Et bah là, justement, bon, c'est un exemple pas très joyeux, mais qui est quand même le reflet de ce que subissent ces enfants. C'était justement la semaine dernière. Donc, notre équipe était sur le programme et il y a une petite fille de 5-6 ans qui était là, qui est allée consulter le médecin. Et en fait, on a appris qu'elle avait vécu un abus sexuel. Donc, dans la rue, comme ça, en pleine journée, et par un jeune, quoi, un mineur aussi. Donc, voilà, une situation terrible, une parmi d'autres, parce qu'il y en a d'autres comme ça. Donc, ça, c'est celle qui est la plus récente, je dirais, qui nous a touchés, parce que cette petite, eh ben, je l'avais dans les bras il y a peut-être quelques semaines, et jamais on imagine ça, mais ça fait vraiment partie de la violence, du quotidien, de la violence de la rue, quoi. Donc, c'est vraiment des situations difficiles.
Je trouve en tout cas vraiment très, très inspirant ce que vous faites, vraiment. Ça interpelle vraiment tout ce dont on est en train de parler là. Est-ce que vous avez un conseil que vous aimeriez donner peut-être à quelqu'un qui hésite à se lancer dans son appel? Quelqu'un qui justement est là, se pose plusieurs questions. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qu'on peut dire à ces personnes aujourd'hui pour qu'elles se décident? Parce qu'apparemment, le besoin, il est beaucoup plus important que ce que nous, on peut s'imaginer, en fait.
Oui. Bien, c'est vrai que moi, je dirais que déjà, l'appel qu'on reçoit, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment considérer avec sérieux, devant Dieu. Et ensuite, je pense que ça demande de s'examiner parce qu'on va faire face justement à des prises de décision où il va falloir faire des pas de foi. Il faut justement, Dieu nous demande de sortir de la barque et c'est ce qu'on a dû faire aussi. Mais c'est vrai que ça demande de placer la confiance en Dieu et de se dire, bon, Dieu pourvoit et s'il m'appelle à ça, il pourvoira pour toute chose. Et ça, c'est le conseil que je donnerais, que je vis à l'heure actuelle. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est pour ma part acquis, où je me dis, ça y est, c'est bon. Pas du tout. Les questions, elles peuvent nous suivre encore. Elles nous suivent aussi pendant tout ce parcours. Je pense que c'est même dans la vie chrétienne. Mais c'est vrai que quand on dit oui à l'appel, je pense qu'il y a aussi quand même comme un soulagement aussi. La période, je trouve, la plus difficile, c'est entre le moment où on reçoit ça dans notre cœur et où il faut faire ce pas, franchir ce pas, de dire oui vraiment et d'activer les choses. Mais une fois qu'on active, je pense que déjà, c'est déjà un grand pas. Et oui, et garder cette foi de se dire que si Dieu met ça dans notre cœur, il va pourvoir et il est suffisant pour nous, pouvoir à ce dont on aura besoin pour mettre en place ce projet et pour être entouré des bonnes personnes et pour avancer dans ce qu'il a mis sur notre cœur.
Et pour en revenir du coup plus précisément à votre projet, donc des 2400 sourires, le but, la vision, c'est de construire un village dans lequel vous allez pouvoir accueillir des enfants, mais de façon justement plus durable et que ce soit plus juste que des activités hebdomadaires, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. L'objectif, c'est donc construire un village qui permettent en fait d'accueillir ces enfants, de leur proposer une scolarité, de leur proposer des soins, de leur proposer du sport, des formations professionnelles. Enfin, l'idée, c'est vraiment de leur donner toutes les chances, toutes les possibilités pour pouvoir sortir, en fait, avoir un avenir et dire, ben tiens, j'ai étudié, j'ai obtenu un diplôme, j'ai trouvé un travail, maintenant je peux travailler, maintenant j'ai un avenir, quoi, loin de la rue. Et ça, c'est vraiment l'objectif de du projet. C'est vraiment proposer quelque chose de complet pour ces enfants, dans lequel ils puissent s'épanouir et puis... avancer et avoir un nouvel avenir.
C'est beau ça. Et au niveau de la main-d'œuvre, du coup, parce que tu disais que tu avais une équipe, mais parce que c'est quand même un gros projet qui demande beaucoup de ressources, est-ce que vous avez l'équipe pour ?
Oui.
Oh, merci.
Alors sur place, donc à Madagascar, on a une équipe, oui, qui travaille avec nous, et puis donc une équipe qui travaille dans les bureaux, je dirais, et puis on a aussi une équipe sur le terrain, donc là on emploie des personnes pour la construction, des maçons et des gens qui viennent qui s'investissent, qui travaillent du coup pour la construction. Et puis on a eu aussi la chance d'avoir pas mal de personnes qui sont venues nous rendre des visites, des bénévoles qui se sont investis à nos côtés. Donc là aussi, c'est une belle aventure parce que des personnes, parfois, voilà, qu'on connaît tout juste, mais qui sont saisies, qui sont touchées aussi par cette œuvre et qui viennent et qui viennent avec un projet et qui prêtent main forte pour la construction, pour des choses précises.
C'est un peu bête, mais vous êtes où à Madagascar ?
Alors, on est en périphérie de la capitale, Madagascar, donc pas très loin de l'aéroport. Et du coup, le village qui est en construction sera en périphérie de l'aéroport de Tana.
D'accord, ok. Mm-hmm.
Donc, les gens peuvent trouver toutes les informations sur votre site 2400sourires.com.
Org.
Je me suis dit, c'est oh non, vas-y avec comme. Bah non, j'aurais pas dit 2400sourires.org. Et c'est puis là, on peut avoir toutes les infos, la vision, ce que vous faites, là où vous en êtes et vos projets. Et je trouve ça juste très, très beau en fait comme projet. Et je trouve que c'est un projet qui est tellement. Pas égoïste, qui est totalement tourné vers des enfants, vers ces enfants qui sont un peu complètement même laissés à l'abandon. Puis autant je trouve ça très beau. Je trouve aussi que c'est un vrai projet de foi. Et je saisis franchement l'ampleur du projet. Et on y croit avec vous. En tout cas, EMCI, on aime beaucoup. On aime beaucoup. C'est un projet qui nous touche à chaque fois énormément. Et puis, on est de tout cœur avec vous. Et on prie pour vous. On prie que tout ce que vous puissiez entreprendre puisse réussir et que vous ayez tout ce dont vous ayez besoin pour réussir, que ce soit en finance, que ce soit en main-d'œuvre, que ce soit en personnel aussi, parce que comme tu le disais, ça va être aussi une école, donc c'est du personnel qualifié et que vous ayez le meilleur pour ces enfants, et parce que Dieu aime ses enfants. Et puis merci beaucoup Séverine d'avoir partagé maintenant de l'avoir encore l'avoir entendu de toi. T'es vraiment une femme de foi, une femme de foi extrêmement courageuse, et puis ta foi en Dieu pour toi, pour ta famille, pour tous ces enfants, c'est vraiment inspirant. Et pour moi, je me dis, Annabelle, peu importe ce que tu te dis, ce que tu me fais, c'est pire. Donc tu peux dire oui. Mais non, c'est vraiment beau. Merci d'avoir partagé ton cœur. C'est hyper inspirant. Tu voulais ajouter, Aurélie ?
Non, je trouve ça vraiment, c'est vraiment édifiant même, j'ai envie de dire. Et pour les personnes qui ont encore des excuses, c'est aussi très interpellant. Comme message, je trouve.
Moi, je veux juste savoir, 2400, est-ce que c'est un rapport avec les enfants ou c'est venu d'où le nom ?
Alors oui, 2400, en fait, c'est parti d'un rapport de l'UNICEF qui datait de 2018, qui avait recensé 2400 enfants dans quatre quartiers seulement d'Antananarivo, donc la capitale. Mm-hmm. Et du coup, c'est de ce chiffre-là, de ce nombre-là, qu'on est parti pour créer le nom de l'association, 2400, parce que 2400 enfants dans les rues, et sourire, parce que l'objectif, c'est de leur redonner le sourire et bien plus que le sourire. Donc voilà le, okay. le nom de l'association.
Ben merci Séverine. Écoute, on te laisse merci continuer ta nuit. Merci d'avoir participé à cette émission en pleine nuit pour toi. Et puis on salue aussi Romain et puis tous tes enfants. Mmh. Vraiment soyez bénis. Puis je pense qu'on aura l'occasion de pouvoir se reparler, que tu puisses aussi nous donner des avancées sur sur votre projet. Donc 2400sourires.org et vous allez avoir toutes les informations si vous voulez aller voir ce que Séverine et Romain font à Madagascar en répondant à l'appel de Dieu. Donc Séverine, on te dit bye bye. Merci d'avoir été avec nous. Mmh. Vraiment sois bénie.
Merci beaucoup.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.